France Culture.
Transition énergétique, éteindre un feu hors de contrôle. Une série documentaire de Tao Favre, réalisée par Gaël Gillon. Épisode 2, creuser des mines, cacher les flammes.
J'ai pas le mot pour dire à quel point mon étonnement est grand. Quand on vit, notamment en Occident, en France, on est drogué aux mines, on est ivre de ça, et qu'on n'en parle pas, quoi. Enfin, où il y a quelque chose d'assez bizarre de la modernité, quoi. Voilà. Et une modernité qui cache sa condition matérielle.
David Kitoko, politiste.
Quand on parle du numérique, et alors là, je suis sidéré que personne, en tout cas très peu de gens, ramène cette question sur la table en disant, mais en fait, tout ça, c'est pas le cloud, quoi, c'est pas le nuage, c'est très palpable, c'est concret, et alors que tout le monde se emballe avec, 4 grammes de coltan dans son téléphone, pour les voitures électriques, 15 kilos de cobalt. La mine, c'est l'histoire de la colonisation, de la colonialité, la Kanaky, je viens de quelque part, la RDC. Dans une zone qui vit la guerre, je vais vous faire une surprise, c'est mes 30 ans aujourd'hui. Je viens d'une zone qui connaît la guerre depuis 30 ans, où des rapports et des rapports font état de plus de 6 millions de morts. Le gouvernement congolais parle de 10 millions de morts. Bref, 10% de la population congolaise exterminée pour accéder à des cailloux. On fait des politiques publiques, des financements. J'ai vu qu'au sommet de l'IA, Emmanuel Macron disait que c'est 109 milliards d'euros qui vont être investis pour encore plus du numérique. Donc pour moi, ça voudrait dire encore plus de morts, encore plus de destruction d'humains et non-humains de là où je proviens. C'est quelque chose qui est construit, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une architecture coloniale où on va aller chercher des ressources dans les pays colonisés pour répondre aux besoins de la métropole. Ça ne nous interpelle pas. Enfin, nous, parce que cette société m'a accueilli avec mon histoire. L'histoire des réfuges, quelqu'un qui fuit ces territoires-là. Mais oui, c'est fou qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, ou alors c'est ceux qui en parlent, c'est ceux aujourd'hui qui vont être amenés à vivre cette réalité-là. Maintenant, je me suis fait d'amis dans l'Allier. Eux, ils en parlent beaucoup, quoi, tous les jours, pour le coup. C'est une réalité qu'ils ont, qu'ils vont devoir faire face. Et ceux qui viennent le rappeler sont un peu à la marge, quoi.
Cécile Pouli, ingénieure, membre de l'association Préservons la forêt des Colettes.
Octobre 2022, l'annonce de l'ouverture du projet. Voilà, je suis dans ma voiture. Et il y a eu un flash info où il a seulement été dit un énorme projet d'extraction de lithium en Auvergne. Et à Auvergne, j'avais compris que c'était Échassière. Bah, c'était vraiment quelque chose d'incroyablement négatif, dans ce sens où j'ai à la fois le bagage scientifique pour comprendre ce que c'est une mine et ce que ça sous-tend en termes de prédation sur les ressources locales, l'eau, la terre. Et quand j'ai entendu ce projet qui venait s'installer juste à côté de chez moi, alors que je venais de m'installer ici, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. En réalité, c'est pas possible que vous veniez faire ça là, du lithium. Ce lithium qui, pour moi, est associé à une transition énergétique et qui, à mon avis, se trompe complètement de but. Pour moi, le jour où ça s'est annoncé, j'ai compris que notre territoire allait être saccagé, vendu pour un projet qui n'est absolument pas un projet écologique, mais vraiment un projet de développement industriel, de capitalisme.
Ce lithium, donc, il se destine plutôt au marché de la voiture électrique, donc pour créer des batteries au lithium pour la mobilité électrique. Alors, pourquoi cet intérêt pour le lithium? Pourquoi dans le projet on est tous convaincus qu'il faut exploiter ce gisement? À tout part du constat qu'a fait notamment le GIEC sur le réchauffement climatique. On sait que le réchauffement climatique, il est dû pour au moins 30% à l'émission de gaz à effet de serre associée au transport. Le lithium, c'est le métal le plus léger du tableau de Mendeleïev. C'est aussi celui qui a la plus forte capacité à emporter de l'énergie. Donc très léger, grande capacité à emmener de l'énergie, c'est le candidat qui est vraiment idéal pour la mobilité électrique.
Christopher Heyman, directeur du site Imerys Beauvoir.
Le projet Émilie, là où il est stratégique en France, et il va être important aussi d'un point de vue pédagogique, on a besoin de souveraineté, on a besoin de réindustrialiser le pays. On a vécu pendant des décennies, et sans s'en rendre compte, sous perfusion, si vous voulez, d'importations de minerais, de produits miniers qui viennent de partout dans le monde. Et on a oublié que justement les mines sont essentielles à notre civilisation. Il y a une expression qui dit « tout ce qui ne se cultive pas se mine ». Finalement, si chacun observe autour de soi, dans sa maison, ou quand on est dans sa voiture, ou sur la route, on est entouré de matériaux qui proviennent d'extraction minière. Mais l'enjeu, justement, c'est d'arriver à extraire les matériaux et les minerais, notamment les plus stratégiques sur le territoire, retrouver des emplois sur le territoire, et également avoir le code de l'environnement français, qui est très rigoureux, le code du travail, qui fait que ces impacts miniers qui sont ailleurs dans le monde et loin de notre regard, reviennent sur le territoire, qu'ils soient plus contraints par des normes, moins impactants. Et je pense que ça, c'est un élément qui est hyper important, que chacun comprenne nos usages, nos besoins, et qu'on soit un peu responsabilisé par rapport à nos activités au quotidien.
Je ne pense pas me tromper en disant que ça a pris tout le monde au dépourvu. Personne ne s'y attendait. Tout le monde sait qu'ici existe une exploitation de kaolin et qu'elle date de très longtemps, qu'il y a eu un patient minier. Ça fait partie de notre histoire. Mais je crois que personne ne s'attendait à ce que ça puisse être une réalité, que la relance minière soit en France et a fortiori sur notre territoire. Même les gens qui ont toujours vécu ici ont été extrêmement surpris.
Célia Izoard, journaliste, philosophe.
Notre génération, peut-être pas celle de nos parents, mais la nôtre, a grandi dans un monde dans lequel les métaux n'existaient pas, les mines n'existaient pas, parce que ça allait de soi comme les feuilles sur les arbres. Mais ça, c'est un pur produit d'une situation politique. Ça, c'est l'hégémonie occidentale qui permet d'avoir des métaux de partout dans le monde, à bas coût, sans rupture et sans accroc. Les métaux, les mines nous explosent à la figure à partir du moment où on en manque. Ça, c'est le début des années 2000, ce qu'on appelait la crise des terres rares. Quand la Chine commence à restreindre ses exportations de terres rares, donc qui sont ces 17 éléments, qui sont vraiment des métaux de spécialité qui permettent de doper plein d'usages, surtout dans l'électronique. Et là, tout à coup, dans certaines classes, on se demande comment fonctionnent ces chaînes d'approvisionnement, et s'il n'y aurait pas intérêt à produire un peu plus de métaux dans des pays plus sûrs, etc., etc. Et là commence cette séquence dans laquelle on est. Les mines sont de retour, mais c'est pour sauver la planète. En fait, c'est ça le projet des mines pour la transition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les élites interprètent l'accord de Paris comme « il faut plein de métaux pour produire plein de technologies pour faire baisser les émissions carbone », c'est cet usage des métaux-là qui va être mis en avant et qui va être la grande bannière de l'industrie minière et du retour des métaux sur la scène publique. En fait, c'est un espace totalement honteux de nos systèmes, quoi, fondés sur la pollution, la violence, l'exploitation. Le système minier lui-même, il n'est pas présentable. Et donc finalement, dans notre histoire économique, ce qu'on voit, c'est des subterfuges, disons, pour le dissimuler, le mettre à distance, finalement encadrer le récit dans lequel les mines vont apparaître dans l'espace public. Et avec l'idée des mines pour la transition, on est vraiment dans ce genre de décor, quoi.
Je me suis tout de suite rendu compte que le projet était absolument pharaonique. On parle de vraiment quelque chose qui est énorme et qui n'a rien à voir avec ce qui a déjà eu lieu sur le territoire. Pour les gens, une mine, c'est juste sortir du caillou, et puis c'est des petits wagonnets, des barres à mine, et voilà, quoi, c'est germinal. Mais en réalité, la mine moderne, ce n'est pas ça. Quand on a sorti du caillou, on n'a pas du métal. Derrière, il y a tout un process industriel complexe qui engage énormément d'eau et de produits chimiques qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre. Ma première action, ça a été voilà, de sensibiliser les gens que j'ai pu trouver. Notre but premier était quand même d'expliquer aux gens voilà, ce qui se trame par chez nous. Quoi. Avant que vous soyez tout de suite emballés par le fait d'avoir un projet industriel qui va potentiellement, selon le porteur de projet, redynamiser le territoire, qui va permettre d'extraire un produit qui sera bénéfique à la transition écologique. Et parce qu'il faut bien comprendre qu'ici, tout le monde pense qu'il va sauver le monde, en réalité. Hein.
Non, mais le matin, ici, traditionnellement, c'est le café. C'est le café. On se retrouve, soit les copains, les gars de la chasse, des gars des chasseurs, là, les copains, là. On se retrouve tous les matins, je viais chercher mon journal tous les matins, et puis on boit notre petit coup, comme ça, voilà.
Daniel.
On discute de tout un tas de problèmes, et puis voilà, quoi.
Et la mine, c'est un sujet entre vous, ou vous en parlez rarement, en fait?
On en a eu parlé quand c'était le sujet au moment où il y avait toute cette polémique et tout, mais après, on en parle pratiquement pas. Pratiquement pas. Non, parce qu'on sait que c'est acquis, de toute façon, et puis ça va se faire. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions d'informations, ils sont obligés. Hein. Puis on a des détracteurs qui viennent de communes à côté. Des mordus soi-disant écologistes. Parce qu'il y en a. Hein. Ils ont tous des téléphones portables ultra modernes, mais par contre, ils ne veulent pas de lithium. Par contre, leur téléphone, comment qu'il fonctionne? Ah, mais non. Chez eux, ça va. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais je comprends qu'il y a des détracteurs. Parce que, et eux, il y a aussi les déchets. Ils ont parlé, moi, par contre, je ne sais pas. Ils ont parlé, oui, qu'est-ce qu'on va faire des déchets? Mais moi, je ne sais pas. C'est trié, c'est machiné, c'est revalorisé, je suppose. J'en sais rien, hein, je ne sais pas. Moi, je suis incapable de vous le dire, ça, je ne sais pas. Mais moi, je suis pour. Je suis désolé. Oui,
c'est déjà étudié.
C'est déjà étudié, ben, bien sûr. Des projets comme ça, nationaux, vous vous rendez compte, l'impact que ça a, cette affaire-là?
Il y a quelque chose d'un peu magique dans ces nouveaux moteurs électriques qui progressivement remplacent les vieux moteurs thermiques. Les voitures ont cessé de faire du bruit et de sentir mauvais. Les SUV de 3 tonnes semblent légers comme des plumes. Puissance, ordre et propreté formeraient l'horizon radieux de la transition énergétique. Ce sont les batteries lithium-ion, capables de convertir et d'accumuler en grande quantité l'électricité sous une forme chimique, qui sont à l'origine de cette prouesse. Il faut dire que les métaux, dont la concentration dans la croûte terrestre prend des millions d'années, forment une matière aux propriétés souvent miraculeuses. Propriétés dont l'industrie a fait son socle, créant progressivement un monde où les métaux sont partout. Dans les infrastructures, dans les peintures, les champs, les ampoules, les produits cosmétiques, et bien sûr dans chaque objet électrique et numérique. L'extraction de métaux est la clé de voûte de la technologie. C'est aussi celle de la transition, de ses panneaux solaires, ses éoliennes, son réseau électrique. Et à travers la planète, c'est une ruée minière qui est en cours. Ces 20 dernières années, la production mondiale de métaux a doublé. On ne sait pas, tant elles sont nombreuses, combien il existe de mines sur Terre. Ce qu'on sait par contre, c'est que de nombreux pays s'apprêtent à en creuser sous la mer, et qu'en France, plusieurs permis de recherche de gisements ont été octroyés. C'est un talent de l'industrie minière, dénicher les plus beaux endroits aux géologies singulières pour les concasser et en faire de la farine. Ainsi, à Échassières, dans l'Allier, le site de Beauvoir, avec ses sources, ses chênes et ses hêtres, en d'autres temps, aurait probablement été sacré. C'est ici qu'Imerys prévoit d'extraire, à partir de 2030, 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an. Classé d'intérêt national majeur, le projet bénéficie de dérogations administratives. C'est en France le grand retour des mines, un extractivisme vert comme la croissance. François Jarige, historien.
Il faut bien imaginer qu'avant le 19e siècle, ce qu'on appelle les mines, c'était en fait des systèmes artisanaux liés au monde rural. Les mineurs, en fait, c'était des paysans qui allaient s'embaucher dans les mines quelques semaines ou quelques mois par an pour avoir des compléments de ressources dans des contextes de diminution des prix agricoles. Bon, enfin, donc les mines, c'était pas grand-chose, en fait, avant le 19e siècle. Alors, il y a quelques contre-exemples. Hein. Les premières grandes mines, notamment en Amérique latine, les mines de Potosí, qui sont très célèbres, qui ont absorbé des centaines de milliers de paysans, de populations, de membres des communautés autochtones. Donc il y a certains bassins miniers qui alternent déjà, notamment pour extraire l'or, l'argent, dans le cadre de la colonisation du Nouveau Monde par l'Europe à partir du 15e siècle. Mais évidemment, le secteur minier explose à partir du 19e siècle. Et donc les mines, paradoxalement, elles ne vont pas susciter énormément de conflits ou d'oppositions, parce que souvent elles sont placées dans des territoires ruraux. Donc contrairement aux usines qui s'installent au milieu des habitations, des populations qui peuvent provoquer des vrais conflits avec les riverains, avec les habitations, là les mines sont souvent présentées en fait comme une source de richesse pour les populations locales. Elles sont soutenues par l'État et les autorités comme de toute façon des conditions indispensables au progrès des sociétés et des nations, notamment après le choix du feu quand le charbon devient un matériau stratégique. L'ouverture des mines de charbon devient évidemment un enjeu majeur. Donc on se met à forer, comme on a de nouvelles capacités techniques, on peut creuser plus profondément. Parce qu'à la fin du 19e siècle, vous avez des mines de charbon qui descendent à 1 km de profondeur. Donc on a complètement changé de monde. Entre les petites mines artisanales qui descendaient à 50 mètres maximum au milieu du 18e siècle et les mines géantes. Et puis surtout à cette époque-là aussi, on va avoir l'ouverture des mines à ciel ouvert, qui est encore une autre logique, notamment dans les Appalaches, aux États-Unis. Donc là, on découpe carrément, on commence à découper des montagnes entières. Donc on creuse plus, avec tous les problèmes techniques que pose le creusement de galeries souterraines, qui est complexe, lourd, nécessite de gros investissements. À la fin du 19e siècle, avec l'arrivée de la dynamite et de moyens techniques plus puissants, on va se mettre de plus en plus à ouvrir des mines à ciel ouvert. Ce qui est la norme aujourd'hui hein, dans plein de secteurs d'activité. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a une histoire sociale de la mine qui est intéressante. C'est-à-dire que les mines, ça va être les premières grandes entreprises capitalistes, et les mines vont s'accompagner aussi de la professionnalisation d'un nouveau groupe social qu'on appelle le mineur, qui va identifier son activité à l'extraction minière et qui va valoriser ce travail dans les mines. Toute la culture, toute la figure de l'ouvrier mineur, du virilisme ouvrier, de la fierté aussi, de la difficulté du travail. Et il y a tout un phénomène paradoxal à la fin du 19e siècle où la difficulté même du travail, qui pourrait être une des sources de sa critique du travail souterrain dans les mines, devient une source de fierté pour la classe ouvrière qui fait de cette difficulté même un élément de son identité professionnelle. Donc ça, c'est un point important, c'est toute l'histoire de la professionnalisation du monde minier. Donc dans ce contexte-là, en fait, on ne conteste pas la mine, puisque la mine est à la fois la source de richesse locale, la source de l'identité des acteurs, etc. Donc la mine ne fait conflit que quand elle est considérée comme extérieure. C'est aussi l'un des paradoxes de la réouverture des mines aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on réouvre des mines dans un contexte où pendant 40 ans, on a présenté le fait que la fermeture des mines avait été un progrès. Les mineurs ont disparu de la population. Alors, il reste un imaginaire de la figure du mineur comme pilier, figure héroïque de la classe ouvrière. Mais ça apparaît comme de l'histoire ancienne, en quelque sorte. Il n'y a plus de cette conscience-là. Donc aujourd'hui, rouvrir une mine de lithium en Auvergne, ça pose problème parce que ce n'est plus les mêmes acteurs, parce que ces territoires ne s'identifient plus à cette activité minière. Parce que désormais, c'est des territoires qui s'identifient par d'autres caractéristiques. Donc c'est normal, donc évidemment ça va poser plein de problèmes d'acceptabilité autour des impacts environnementaux, d'autant plus que les conditions d'extraction dans les mines d'aujourd'hui sont beaucoup plus toxiques qu'avant, que ça soit pour les métaux, le fer, le cuivre, mais aussi pour le charbon, c'est-à-dire la teneur en minerais dans des quantités de matériaux extraits est beaucoup plus faible. Donc c'est beaucoup plus complexe d'extraire aujourd'hui des mines actuelles que ça l'était au 19e siècle en fait. Parce que tout ce qui était le plus facile à extraire, on l'a déjà extrait. Donc il reste que les choses compliquées à extraire.
Émilie, c'est le nom du projet d'Imerys, un nom de fille qu'on imagine jeune et douce. Émilie, c'est trois sites. Une usine de conversion à Montluçon, une plateforme de chargement ferroviaire à Saint-Bonnet-de-Rochefort et une usine de concentration au-dessus de la zone d'extraction à Échassières, où se trouve aujourd'hui une carrière de kaolin. Une grande fosse blanche de plusieurs millions de mètres cubes où poussent par endroits quelques jeunes et courageux. C'est sous cette carrière que la multinationale prévoit d'extraire le granit dans lequel est contenu le lithium.
Le choix de l'extraction souterraine, c'est vraiment lié à la réduction des impacts. Tout ce qu'a structuré le projet Émilie, c'est l'acceptabilité, la réduction des impacts. Ce qu'on prévoit, c'est une entrée qui serait située vraiment au sud, tout là-bas, et on irait donc descendre un petit peu à la manière d'un parking souterrain avec finalement un accès sous forme un petit peu de colimaçon pour descendre jusqu'à 400 mètres. Donc ça, c'est notre voie d'accès vers le gisement. Là, on peut récupérer du coup des blocs de granit qui peuvent être métriques qu'on va mettre dans un concasseur en souterrain. On va réduire la granulométrie jusqu'à obtenir des blocs de 10-20 cm qu'on va pouvoir charger sur un convoyeur. En remontant surface, et là, ça passe dans l'usine de concentration. Il faut s'imaginer qu'elle sera là-haut, qu'elle surplombera la fosse. Et l'usine de concentration va aller isoler les micas qui contiennent le lithium. Des étapes de l'usine de concentration, ça va être d'abord broyer la roche, donc on va broyer le granit en voie liquide. Alors, c'est là qu'on va mettre de l'eau. Une fois que ça c'est fait, on va passer à une étape de flottation qui va permettre d'aller isoler ces micas. Donc on va mettre des réactifs qui vont s'accrocher aux micas et uniquement aux micas. Avec ce processus, on arrive à avoir du coup les micas en surface des bacs et les autres minéraux au fond. Donc là, il n'y a plus qu'à écumer la surface des bacs et on a obtenu notre concentré de micas.
Ça, c'est la première phase qui nécessite énormément d'eau, qui nécessite énormément de produits chimiques, donc de l'acide pour préparer les grains de mica, mais aussi les collecteurs amines. Et une fois qu'on a récupéré ce mica, on a du mica, on n'a pas du lithium. Le lithium, lui, il est intégré dans la structure cristalline du mica. Il est vraiment dans la molécule, c'est un atome dans la molécule. Donc là, il va falloir littéralement éclater le mica. Et pour l'éclater, il va falloir utiliser des très hautes températures, ce qu'on appelle la pyrométallurgie, et des acides très puissants, des bains d'acide très puissants, ce qu'on appelle l'hydrométallurgie. Donc ça, c'est le deuxième process qui engage énormément d'énergie, parce que là, on est sur des fours à plus de 1000 degrés. Pareil, des produits chimiques comme de l'acide. Tout ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre le rocher, le granit à la base, et le lithium à la fin, il y a 0,5%. Voilà, il y a 0,5% d'équivalent lithium métal dans le granit. Ça veut dire que globalement, 99,5%, c'est potentiellement du déchet. Alors effectivement, le porteur de projet dit qu'il va valoriser d'autres produits, mais pour l'instant, il ne s'engage qu'à valoriser d'autres métaux qui sont dans des proportions de 0,13-0,2%. Donc quoi qu'il advienne, on est sur 99% de déchets. Et ces déchets sont potentiellement extrêmement problématiques. D'abord, ils sont problématiques parce qu'ils ont tous baigné dans les bains d'acide de produits chimiques, donc ils sont porteurs de tous ces produits. Et donc, tous ces déchets seront stockés. Une partie sera remise dans la mine, mais une autre grosse partie sera laissée en extérieur, à Échassières, puis dans d'autres sites qui sont non encore identifiés. Et ces déchets sont laissés à tout va avec des pluies, comme il peut y en avoir, des énormes pluies. Et cette pluie traverse ces montagnes de déchets et rejoignent derrière les nappes phréatiques, les sols, les nappes phréatiques, et polluent potentiellement sur plusieurs dizaines de kilomètres, voire plus loin. Il faut bien quand même comprendre qu'aujourd'hui, on a déjà un territoire qui est largement affecté par le passé minier, et on s'apprête, sans avoir résolu ce problème-là, à réinstaller un autre projet à un kilomètre. Et un projet qui est infiniment plus gros. Il est prévu d'extraire 2 millions de tonnes de roches par an. 2 millions de tonnes de roches par an, ça veut dire globalement une piscine olympique par jour. 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc broyé comme de la farine et traité. Au bout de 3 ans, Imerys aura sorti l'équivalent d'une pyramide d'Égypte. Mais pas n'importe laquelle, la plus grosse, Khéops. Et au bout de 25 ans, le gisement extrait représentera l'équivalent d'une sphère dont le diamètre serait la tour Eiffel, au bout de 25 ans. Sauf qu'à date, ils nous ont assuré que le gisement pouvait être exploité sur 50 ans, c'est-à-dire le double. Là, on atteint une sphère qui ferait 450 mètres de diamètre. C'est quoi 450 mètres de diamètre ? C'est une fois et demie la tour Eiffel de diamètre. Donc c'est ça qui se profile.
En effet, du coup, on va générer des résidus. On ne pourra pas tout remettre sous terre. Là, on a la chance d'avoir une fosse de plusieurs millions de mètres cubes en surface. Donc le choix sera, en plus de remettre des résidus en souterrain, d'en remettre en surface sous forme séchée. Et là, on pourra du coup stocker, et c'est comme vous voyez, hein, c'est cloisonné, c'est fermé, c'est pas des digues, etc. qu'on a à construire. Et donc il y aura un stockage sécurisé de ces résidus à cet endroit-là. Donc tous ces produits, évidemment, hein, ils sont stockés, sécurisés, sur des aires de rétention, c'est-à-dire que même en cas de fuite, ce serait contenu. Enfin, tout ça est très réglementé. On a une partie des résidus qu'on se doit de caractériser pour déterminer exactement est-ce qu'il faut mettre un géotextile, quels sont les contrôles qu'il faut prévoir, etc. Mais c'est rien de très complexe, si vous voulez. Ça se gère plutôt simplement, les résidus. Je vous disais qu'il n'y a pas de sulfure, il n'y a pas d'arsenic. Voilà, on n'est pas sur des chimies qui sont très très agressives. De toute façon, on ne pourra pas rejeter des éléments chimiques dans la nature qui dépasseraient des normes, parce que sinon, on ferme le site, si vous voulez. Donc, ces questions-là, elles ont beaucoup évolué, le code de l'environnement a beaucoup évolué, le code minier qui va sortir va être également très vigilant et très restrictif sur ces questions-là. Mais voilà, les mines, même dans le monde, hein, en Occident, etc., c'est plus ce que c'était sur la gestion.
C'est drôle que ça ait pu être présenté comme étant très très différent, la mine du 21e siècle. Alors, c'est effectivement, ça fait partie du récit dans lequel on a, disons, enchâssé la mine pour la rendre présentable, littéralement pour la présenter au public à partir des années 2010, quand il a été admis qu'il faudrait de toute façon de plus en plus de mines un peu partout et que donc il fallait nécessairement le dire aux gens, ne serait-ce que parce qu'ils avaient un projet minier sur leur territoire, dans leur campagne. Et à ce moment-là, il fallait expliquer que les mines, maintenant, c'était pour sauver la planète, mais aussi que de toute façon, c'était pas la peine d'avoir des préjugés parce que c'était très, très, très différent de ce qu'ils avaient en tête. Ça peut prêter à sourire, parce qu'en réalité, ça, l'association Systext, donc l'association qui travaille sur les systèmes extractifs, Systext l'a bien montré, il n'y a pas de rupture technologique du tout dans le monde minier au cours des dernières décennies. En fait, les grandes techniques minières qui ont été développées et qui sont structurantes dans cette industrie, l'extraction avec des haveuses, la flottation, les techniques métallurgiques, la gestion des résidus miniers, c'est des technologies, des techniques en fait plutôt, assez anciennes, qu'on essaye bon an mal an d'améliorer, mais il n'y a pas de rupture. Donc malheureusement, la mine du 21e siècle, c'est un système qui est en fait dans l'impasse. Qu'est-ce que ça veut dire stocker 800 000 tonnes de déchets chaque année, de résidus miniers, et encore 800 000 tonnes chaque année qui seront produites à Montluçon? Donc là, en pleine ville, là où se trouvera, si ça se fait, l'usine métallurgique de lithium de Montluçon. C'est absolument colossal, la gestion de ces résidus sur ces sites-là, que ce soit à la Bosse, sur le site des Chassières, qui est une tête de bassin versant, c'est-à-dire des endroits qui sont vraiment en amont de toutes les ressources en eau, stocker 800 000 tonnes par an de résidus a priori toxiques, ce même stockage en pleine ville, avec ce que ça peut laisser supposer de pollution, de risque d'accident très grave. Voilà. Évidemment, la communication du groupe Imerys n'aide pas forcément à se rendre compte de ce que ça va représenter. Et ça, le fait d'avoir des résidus miniers, donc parce que j'ai parlé des résidus qui sont boueux, mais ils peuvent être aussi secs, ça dépend des sites miniers, les résidus miniers, une montagne de résidus recouverte de géotextiles, de géomembranes, ça fait partie des meilleures pratiques. Et on voit, en fait, à quel point c'est inopérant. C'est-à-dire que c'est très, 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 très compliqué de sécuriser un site minier ou un ancien site minier au niveau des déchets. Parce que, effectivement, pour éviter le drainage minier acide ou juste le fait que les polluants s'en aillent, il faut récupérer toutes les eaux les drainer, les stocker quelque part, ensuite les décontaminer. Et là, vous avez du coup des stations d'épuration, des stations de traitement des eaux minières qui vont fonctionner à perpétuité. Il y en a plusieurs dizaines en France. Elles sont là pour traiter des eaux drainées par des déchets miniers pour des mines qui ont parfois un siècle, deux siècles et parfois plus. Et en fait, il n'y a absolument pas de date de fin de fonctionnement de ces stations de traitement. Donc, ce qu'on voit, ce que ça m'inspire, c'est l'impuissance. En fait, l'industrie minière, elle matérialise la toute-puissance technique de notre époque. C'est-à-dire que si on veut se représenter vraiment la démesure technique du monde contemporain, on va se projeter un peu dans ces énormes fosses, on va s'imaginer ces engins absolument gigantesques, on met un humain à côté et il fait même pas la taille de la roue. Donc la démesure. Mais en fait, ce que ça montre tout ça, c'est que dans cette démesure, il n'y a aucune maîtrise, absolument aucune. C'est-à-dire que l'absence de maîtrise, elle est proportionnelle à l'échelle à laquelle les choses sont faites. C'est-à-dire qu'elle est énorme, en fait. Et les meilleures pratiques de l'industrie minière, eh ben, ce qu'elles m'évoquent, c'est toujours cette impuissance. C'est-à-dire que même quand on essaye de faire en fait, le mieux possible, on n'arrive pas du tout à corriger les pollutions, on n'arrive pas du tout à garantir quoi que ce soit. Et certainement pas la pollution de l'eau qui est le principal problème.
Aujourd'hui, les multinationales communiquent beaucoup sur la responsabilité de leurs mines, Apple, etc. Comment tu perçois ce genre de déclaration ?
Elles peuvent toujours communiquer. La réalité de fait, c'est que qu'est-ce que ça voudrait dire une mine responsable ?
David Kitoko, politiste.
Ces gens-là, je ne sais pas si ils ont déjà été dans les mines. Pour extraire 33 grammes de cuivre, il faut casser une tonne de cailloux. Okay, 33 grammes. Le Congo produit chaque année 2,2 millions de tonnes de cuivre par an. Alors, vivez dans un endroit où on produit du cuivre, et amener Monsieur Cook, le PDG d'Apple, pour lui demander si c'est ça qui est responsable quand il voit cette destruction. Vous avez des endroits où on a éventré des montagnes, on a créé des trous abyssales. Quand c'est industriel, c'est comme ça. Ou quand c'est pas industriel, ça va être artisanal, des gens qui vont être exposés à des produits hautement toxiques. C'est quoi leur définition des responsables ? Quand la condition pour produire, pour extraire des mines, c'est de faire la guerre, de tuer plus de 6 millions de gens qui vivaient là paisiblement, qui cultivaient leurs terres, quand vous leur condamnez à l'exil, on a 7 millions de réfugiés internes au Congo qui viennent dans les zones occupées ou des zones où il y a la guerre et des zones qui se trouvent être là où on extrait des mines ou qui sont sur la route où on transporte des mines. C'est ça la mine responsable pour eux. Une mine responsable n'existe pas. Quand je vois dans l'Allier, on est en France, avec un pays qui a un certain nombre de normes. Allons discuter de l'usage ou de la répartition de l'eau entre la mine et les agriculteurs. On va voir qui va en consommer plus et qui en sera privé. Ensuite, on viendra nous dire que la mine responsable peut exister. Non, c'est des fables qui se racontent ou qui racontent aux gens pour continuer le business comme d'habitude. Une mine responsable n'existe pas. Il n'existe que des destructions pour accéder à ces ressources-là. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Ils ne peuvent pas techniquement faire autrement. Par contre, ils peuvent faire de l'innovation technique pour extraire encore plus, pour aller encore plus loin, parce que ça devient de plus en plus compliqué à trouver. Donc on va encore plus loin. Ça, oui, ils savent le faire. Mais ils ne savent pas faire quelque chose de responsable. On ne peut pas revenir à l'état initial des choses.
Et alors, comment vous le voyez, ce projet ?
bien sûr qu'à Échassir, on est habitué à avoir un passé minier, puisqu'on a aujourd'hui une carrière de kaolin qui est en activité depuis très longtemps. On avait plusieurs mines de kaolin il y a plusieurs décennies. Donc pour Échassir, c'est pas non plus on va, une nouveauté d'avoir des mines.
Gilles.
Et on sait pertinemment qu'en France, il y a quand même des normes et des lois qui sont faites pour respecter notamment l'environnement. Donc on espère que ça sera dans les meilleures conditions. Et je pense qu'aujourd'hui, il vaut peut-être mieux extraire du lithium en France dans des conditions respectueuses de l'environnement plutôt qu'ils viennent du Chili ou d'Australie en massacrant la nature. Au niveau de la commune proprement dite, alors que j'en pense personnellement, on est une petite commune, à peine 400 habitants. On a la chance d'avoir tous les commerces, d'avoir une école, d'avoir un réseau associatif qui fonctionne bien, mais on est quand même limite au niveau nombre d'habitants. Et aujourd'hui, on voit que ça peut quand même aussi apporter une activité économique non négligeable qui permettra peut-être de, au moins de maintenir nos commerces, peut-être d'en ouvrir d'autres, et puis de maintenir l'école et puis diverses activités dans notre commune. Parce que le monde rural, quand même, on peine un petit peu au niveau jeune notamment, donc il y a le côté économique qui n'est pas négligeable.
Cécile Pouli, ingénieure, membre de l'association Préservons la forêt des Colettes.
Il faut bien comprendre qu'on est sur un territoire qui est quand même extrêmement dégradé économiquement. Il y a très peu d'emplois, les jeunes partent. Donc forcément, l'emploi, c'est une cause ici et ça leur parle. Et d'ailleurs, le porteur de projet l'utilise à outrance pour séduire le territoire. Et moi, je les comprends, les gens qui pensent ça. Beaucoup ici vivent vraiment modestement. Mais en fait, la réalité, c'est que le nombre d'emplois sera extrêmement limité. Et plus on avance dans le temps, plus on se rend compte qu'il y aura de moins en moins d'emplois. Et puis, pour connaître un petit peu l'industrie minière, il faut comprendre qu'une mine moderne, c'est une mine qui est exploitée avec des moyens techniques extrêmement modernes. Et c'est certainement pas Monsieur Machin ou Monsieur Bidule qui vont occuper ces postes-là. Ces postes seront probablement occupés par des gens qui, dans un premier temps, vont venir de pays qui ont déjà de l'extraction minière. Donc, Canada, Pologne, Australie. Puis, les gens nous disent, la mine, on connaît, on a un passé minier. Bon, la première chose qu'on leur dit, c'est que la mine qui se profile, c'est pas du tout la mine qu'il y avait avant, hein. C'est-à-dire qu'en termes de quantité, la mine de tungstène, qui a été exploitée de 1912 à 1962, ils ont sorti un volume de roche qui est globalement équivalent à ce que Imerys va sortir en 3 ou 4 mois. Voilà, en 50 ans, ils ont sorti ce qu'on va sortir en 3 ou 4 mois. Donc on n'est déjà pas du tout sur la même chose. Donc en termes d'impact sur le territoire, on n'y est pas. Et puis à la fin de l'exploitation, 25 ans, 50 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer la même chose que ce qui est actuellement présent sur le territoire. Parce que la mine qui a supposément amené tant de bonheur de 1910 à 1960, aujourd'hui elle a été abandonnée, laissée comme ça, et on se retrouve avec des pollutions éternelles et gravissimes. Et ça, c'est pas péremptoire, je veux dire. En 2006, l'Union européenne a demandé à ce que tous les États fassent un inventaire de leurs sites miniers. Ça a été fait en 2013 pour la France. Le site des Chassières a été répertorié comme étant un des sites les plus risqués d'un point de vue sanitaire et stabilité. Du coup, il y a une étude plus poussée qui a été faite spécifiquement sur ça. C'est une étude qui est colossale. Hors annexe, elle fait 700 pages, où il est clairement établi que cette petite mine provoque des pollutions éternelles aux métaux lourds massives, et qu'en plus, les résidus miniers, qui sont donc les déchets de la mine, hautement toxiques, sont stockés de façon instable. Et la ville a prouvé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu deux ruptures de barrages miniers sur la commune des Chassières qui ont libéré plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de résidus hautement pollués dans la Bouble. Ça, c'est l'histoire du territoire.
Chaque rapport du GIEC démontre de plus en plus que voilà, le rôle humain du réchauffement climatique, il faut arriver à trouver des solutions pour ralentir ce réchauffement climatique. L'électrification de la mobilité fait partie d'un des piliers de cette transition énergétique. Il y a la sobriété, il y a également l'électrification. Finalement, l'électrification, qu'est-ce que c'est ? C'est remplacer les énergies fossiles par des métaux. Si on parle du photovoltaïque, de l'éolien ou de la voiture électrique, c'est utiliser des métaux à la place du charbon, du pétrole et du gaz. Tous ces éléments, tous ces combustibles fossiles dégagent des gaz à effet de serre. alors que les métaux ils ont une capacité à être recyclés, à durer plus longtemps dans le temps, ce qui fait que voilà, on ralentira l'émission des gaz à effet de serre. La transition énergétique, c'est remplacer des combustibles fossiles par des métaux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça réduit également les impacts miniers. Parce que, avec l'efficacité du photovoltaïque, de l'éolien ou des voitures électriques, finalement, on a moins besoin de sortir de roches du sous-sol que, par exemple, ce qu'on sort pour le charbon. Le charbon, ça représente 8 milliards de tonnes par an d'un produit qu'on va sortir, utiliser une fois, et l'année d'après, il faudra à nouveau ressortir 8 milliards, etc., etc. Alors que si on prend le métal qui est le plus extrait, le fer, ça représente 1 milliard et demi de tonnes par an. Il y a plusieurs thèses qui démontrent que la transition énergétique, si on suit les objectifs de la Convention de Paris, on réduit de 30% la quantité de matériaux miniers qu'on doit extraire du sous-sol. Donc finalement, la transition énergétique, c'est également réduire les impacts miniers.
Célia Izoard, journaliste, philosophe.
Donc ça, c'est vraiment le projet de ce qu'on appelle la transition telle qu'elle a été pensée par les élites économiques et politiques après les accords de Paris. C'est une opération de substitution énergétique qui consiste à prendre cette grande image du monde industriel en pleine croissance et de dire, écoutez, on ne touche à rien. On ne touche pas là, ces usines chimiques, ces voitures individuelles. Pas de problème, on a un moyen de résoudre ça, c'est la fée électricité. Donc on met un coup de baguette magique sur cette production et elle change de nature. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est que ça, c'est une vision qui a occulté la majorité de ce qu'on appelle la crise écologique, fondée sur le franchissement de toute une liste de limites planétaires dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont qu'un élément. Et le reste, c'est la disparition de l'eau douce, c'est l'érosion des sols, c'est la déforestation, c'est l'acidification des océans. Donc là, les élites... la première opération, c'est de dire, en fait, le principal danger, c'est le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. C'est faux. Toutes ces choses sont liées, malheureusement. Et donc, la deuxième opération, c'est de dire on ne change rien et on va pouvoir substituer les énergies. Mais l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, est restée assez floue sur les quantités de métaux qu'il faudrait pour produire des énergies renouvelables qui permettraient de faire fonctionner ce système énergétique. Simon Michaud, un professeur de géométallurgie de l'Institut géologique de Finlande, lui, ici, est collé et il a produit des chiffres là-dessus. Il montre combien d'années il faudrait pour produire suffisamment de cuivre, de nickel, de lithium, de cobalt, de graphite, pour remplacer totalement les énergies fossiles par des systèmes électrifiés. Eh bien, par exemple, combien d'années? Au niveau de la production mondiale actuelle, il faudrait l'équivalent de 189 ans de production de cuivre pour remplacer le système énergétique. Il faudrait 400 ans de production de nickel, 9921 ans de production de lithium, 1733 ans de production de cobalt. Donc on a là des volumes de métaux à produire qui sont impossibles. L'Académie des sciences en France, au moment où a été lancé le projet des véhicules électriques, a dit... quand même faire remarquer que l'électrification juste du parc automobile français, ça nécessitait plus de lithium et de cobalt qu'il n'en est produit en une année dans le monde entier. Essayez d'imaginer ce que ça représentait si chaque pays électrifiait son parc automobile. Là, on a une impasse. Rien dans ce système n'est rationnel, c'est-à-dire l'approche des classes dirigeantes à ces questions, on n'a absolument rien de rationnel. Ça, c'est un rapport purement religieux à la technologie. Mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, il y a ce problème des quantités de métaux pour la transition. Mais l'autre problème, c'est que tous ces métaux qui sont extraits et qui n'ont jamais cessé d'être extraits depuis le début de la révolution industrielle, en fait, ils servent pas juste aux besoins énergétiques. En fait, on vit dans un monde qui est surminéralisé et dans un univers très industrialisé, comme un aéroport. Vous regardez autour de vous, tout ce que vous voyez vient du sous-sol, que ce soit parce qu'il est pétrolier, que ce soit parce qu'il est minéral au sens minier, quoi. Dans tous les cas, c'est un univers minéral. Notre société est fondée sur cet usage extrêmement intensif du sous-sol. Du coup, ce projet de transition qui déjà repose sur des quantités de métaux beaucoup trop importantes, il pose problème aussi parce que les métaux, ils sont pas utilisés que pour ça. Et pour tout le reste, est en croissance. Et donc, bah, tant qu'on questionne pas tous ces autres usages et qu'on ne décide pas de réduire telle ou telle production, il n'y a pas de transition possible. Ça ne peut être qu'une addition.
Cécile Pouly, ingénieure, membre de l'association Préservons la forêt des Colettes.
Personnellement, si on s'était convaincus tous démocratiquement, à l'aune de toute la documentation scientifique disponible, en ne considérant pas que le problème de dérèglement climatique, mais le problème écologique dans sa globalité, les limites planétaires, et qu'on avait travaillé ensemble sur un projet de société qui permet d'envisager une vie décente à nos enfants, et que dans ce modèle de société persiste un besoin de lithium, ben alors oui, qu'il y ait un passé minier sur notre territoire ou pas, oui, venez faire cette mine ici, autant la faire ici qu'ailleurs. Parce que décemment, nous, les associations, on n'est pas chez moi. C'est vraiment pas chez moi, mais nulle part ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ce projet, il est fait pour alimenter un projet de société pour lequel on n'a pas été consulté et en lequel on ne croit pas. C'est pas une transition écologique. Et vraiment, s'il s'insérait dans un projet de société décidé collectivement, démocratiquement, qui laisse percevoir un avenir possible, décent pour nos enfants... Alors si cette mine doit avoir lieu, moi je suis pas contre en tout cas. Mais pour moi, le point le plus important, c'est mais à quoi ça va servir, ce lithium? Et à qui ça va servir? Parce qu'aujourd'hui, il faut bien savoir que le lithium, on va parler de pourcentage, hein, mais 80% du lithium extrait est destiné à la filière voiture. Et les voitures, on est quand même globalement sur de la grosse cylindrée. Sauf que c'est... tout ce qu'il ne faut pas faire pour réussir une transition énergétique, une transition écologique. Et en plus de ça, ce que nous, on essaie de dire aussi aux gens du territoire, c'est que globalement, les gens sur le territoire ne sont pas excessivement riches. Personne ne va s'acheter ces bagnoles. En fait, ce lithium, il va être extrait ici pour aller alimenter des gens qui sont en capacité de se payer des grosses cylindres électriques. C'est certainement pas nous. Pour un projet qui, en plus, est massivement financé par l'État, probablement aussi par l'Europe, via des financements directs, exonération d'impôts, des financements de la dette, etc. Je ne sais plus où on en est. Moi, j'en étais restée à plus de 250 millions d'euros, plus ou moins actés, de financement direct ou indirect à destination de ce projet. Non mais, qu'est-ce qu'on ferait avec 250 millions d'euros même pas que sur le territoire de la Beauce, hein, mais de façon plus large pour préparer une transition en permettant à des gens de s'installer, peut-être en agroécologie, à financer des infrastructures viables pour pouvoir se transporter, parce qu'ici, pour se transporter, il faut qu'on ait une voiture, il y a très peu d'alternatives. Non, on va flécher plus de 250 millions d'euros, et j'ai cru comprendre que c'était beaucoup, beaucoup plus, mais je voudrais pas dire de bêtises, pour financer un projet qui va produire un lithium qui est destiné à une filière voiture essentiellement, statistiquement essentiellement gros gabarit, qui ne va pas permettre de réussir la transition écologique et qui va être destiné à des personnes qui, aux revenus élevés, qui sont définitivement pas les habitants du territoire. C'est quand même complètement inacceptable. On va condamner notre territoire pour ce projet-là.
Aujourd'hui, il n'est pas question d'imaginer des bilans métal comme on imagine de bilans carbone.
La mine a justement très très longtemps été réduite à ses nuisances. C'est-à-dire que les entreprises minières reconnaissent malgré tout que ça fait de la poussière, que ça défigure le paysage, etc. Ça, c'est ces choses assez prosaïques qu'on a tendance à qualifier par le terme de nuisance. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas ça la mine. La mine, c'est des conséquences systémiques. L'industrie minière, c'est pas seulement des nuisances, c'est pas seulement quelque chose qui a des conséquences locales. C'est un des facteurs majeurs du franchissement des limites planétaires. C'est-à-dire que c'est une industrie qui joue un rôle majeur dans la déforestation, dans la disparition de l'eau potable, dans l'érosion des sols, dans le réchauffement climatique, évidemment. Donc les impacts des mines, ils sont globaux. Tout aussi globaux que les impacts des industries fossiles. Et c'est justement cette vision-là qu'on n'a pas, en réduisant les impacts des mines aux nuisances locales. Mais par ailleurs, le système minier, il est fondé sur une asymétrie. Vous avez une multinationale ultra-financée par des systèmes qui servent et qui sont conçus pour ça. Et tous ces leviers juridiques et fiscaux qui permettent aux entreprises minières de prospérer. Et cette entreprise minière, avec tous ses avocats et ses agents de communication et ses ingénieurs, débarque et est dans une relation complètement asymétrique sur un territoire dont les habitants légitimes sont privés de droits, vivent là peut-être depuis des centaines d'années ou des milliers d'années, mais n'ont pas une reconnaissance formelle de leur propriété et encore moins de leur propriété collective. Puisque la plus grande partie des projets miniers, il faut le rappeler, c'est sur des terres collectives, c'est sur des terres indigènes. Et donc, ce sont des gens qui ont souvent très 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 peu de pouvoir, autre que leurs propres ressources politiques et morales, qui sont parfois énormes, mais qui, au niveau des institutions, pèsent beaucoup moins que les entreprises minières. Et la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est que c'est très difficile pour ces communautés de faire reconnaître les impacts miniers. Parce qu'en face, bah, vous avez des entreprises pour qui le mensonge est un outil quotidien. J'ai entendu, moi, des entreprises minières dire des choses manifestement fausses, avec beaucoup d'aplomb, face à des communautés. Ça fait partie du fonctionnement minier. Par exemple, quand le projet commence, de mentir systématiquement sur ses impacts. Mais avant même ça, de mentir déjà sur le projet en lui-même. Parce qu'un projet minier, ça commence d'une certaine manière, mais après, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Par exemple, moi, je ne connais pas de site minier qui n'ait pas, à un moment ou à un autre, provoqué une très grave pollution des eaux.
David Kitoko, politiste.
Ils ne veulent pas se poser des questions, s'asseoir et réfléchir, c'est quoi nos besoins. Non, on continue ce système-là, on continue à produire des milliers de gadgets, on trouve des nouveaux besoins, on imagine de nouveaux besoins.
Au fond, il y a une question vraiment éthique qui est majeure, hein, en fait, c'est qu'il faut, il faut tourner le dos à ces objets.
Alors, je ne nie pas la question éthique, mais je pense que c'est un gros piège si on amène ce problème-là à l'échelle de l'individu. Parce que c'est aux politiques publiques d'en décider. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de loi, par exemple, qui oblige à faciliter, par exemple, la réparabilité pour faire durer ton iPhone, tiens, 20 ans. Je pense que ça résoudrait pas mal de problèmes déjà dans ce sens-là. Mais parce qu'on ne veut pas questionner les modèles d'affaires, on continue. J'imagine que ton téléphone devient dans une certaine mesure ton outil de travail aussi. Tu ne peux pas t'en passer pour faire Pôle emploi si tu es au chômage. Si tu cherches du travail, tu as besoin d'accéder au numérique, tu as besoin d'utiliser le numérique. Pour mon cas, moi qui suis réfugié, pour faire mes démarches avec ANEF, c'est un truc nouveau qu'ils ont créé, vous devez prendre rendez-vous en ligne. Tu ne peux plus aller à la préfecture et être reçu en personne. Tout se passe en ligne. Donc voilà, on a organisé nos vies autour de ces outils. Donc comment ces politiques publiques sont pensées qui aujourd'hui, en fait, ne donnent aucune alternative, voire très peu d'alternatives aux gens qui se posent des questions légitimes et louables de se dire, mais comment je fais pour ne pas être complice de ces systèmes ? On nous rend complices, malgré nous, de ces systèmes-là.
La mine, c'est Liaï Zohar. C'est vraiment l'essence même du capitalisme, c'est la source de l'accumulation primitive.
Le fait est que non seulement l'accumulation primitive a été permise par à la fois les gisements mirifiques qui ont été exploités en Amérique du Sud et qui ont pris le relais des gisements européens qui étaient déjà un peu déplétés à l'époque de Christophe Colomb. Et donc finalement, cet or, d'abord l'or des Incas, et puis cet argent, et puis ensuite ces diamants, ils ont irrigué les marchés financiers. Ils ont vraiment permis au capitalisme de financer l'industrialisme à partir de la fin du XVIIIe siècle. Mais ce n'est pas seulement cette histoire d'accumulation primitive et de penchant extractiviste de ce capitalisme-là. C'est aussi le fait que ce qu'on appelle l'industrie, finalement, c'est une sorte de devenir minier des autres activités. C'est-à-dire qu'en fait, l'importance et la centralité de l'extractivisme dans notre monde, il a en quelque sorte contaminé l'ensemble de la technique. La technique est devenue à vocation extractiviste, que ce soit le bûcheronnage, que ce soit l'agriculture. En fait, ce qui s'est passé en Amérique du Sud, c'est que après le boom des mines, a été inventée l'agriculture de plantation, l'agriculture coloniale, qui est une agriculture extractiviste, une agriculture qui emploie le sol comme une mine, c'est-à-dire en essayant d'en tirer le maximum sans se soucier de sa régénération et pour produire des biens qui n'ont aucune valeur de subsistance. On ne peut pas plus espérer survivre d'un régime de caoutchouc ou de canne à sucre que d'un régime d'argent ou d'or. Ça n'est viable que pour l'exportation. Ça n'est viable que pour le commerce. Et donc, finalement, la technologie capitaliste, c'est-à-dire ce cas particulier de la technologie qui existe en régime capitaliste, elle doit beaucoup à la mine. Et ça, l'historien Lewis Mumford, il l'avait bien vu quand il disait « La mine ne reste pas en sous-sol. Elle s'étend sur la surface de la terre. » C'est vrai au propre, mais c'est vrai aussi au figuré. Et donc finalement, l'un des grands enjeux de la réflexion sur la technique aujourd'hui, c'est de faire sortir la technique de son envoûtement extractiviste, en quelque sorte. De penser une technique qui ne reposerait pas déjà sur la surconsommation minérale, que ce soit pétrolière, gazière ou métallique, mais aussi une technique qui puisse outiller le monde pour en faire autre chose que d'essayer de capter le maximum de ressources, de transformer le maximum de ressources. Puisque c'est l'ensemble de notre rapport au monde qui est extractiviste, en fait, dans les sphères de la production et même malheureusement dans d'autres sphères, en fait.
Avec David Kitoko, Cécile Pouli, Christopher Heyman, Célia Isoar, Gilles et Daniel, François Jarige. Prise de son, Johanna Gabric. Musique, Jefferson Lambeil. Mixage, Manuel Couturier. Documentation, Annelise Signoret. Chargée de programme, Marivana Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était Transition énergétique. Éteindre un feu hors de contrôle. Épisode 2, Creuser des mines, cacher les flammes. Un documentaire de Tao Favre, réalisé par Gaël Gillon. Retrouvez-nous sur franceculture.fr et pour le podcast, c'est sur l'appli Radio France.